Cube Radio.
Germain, qu'est-ce que tu fais avec ta mop et ton Windex?
Ben, c'est assez simple. Tu m'as dit qu'on parlerait d'entretien.
D'entretien automobile, Germain. Automobile, on est à podcast de char, pas podcast de ménage.
Bon, ben, j'irai laver des vitres un peu plus tard.
Je veux qu'on parle des façons de garder une voiture longtemps, de faire durer son bazou, Germain.
Ben, c'est une bonne idée. On part?
On part. Une voiture, Germain, c'est comme n'importe quel autre objet. Si tu veux que ça dure longtemps, il faut que tu en prennes soin.
Puis comme ça coûte cher, ben on a tout intérêt à en prendre soin.
Oui, je suis totalement d'accord. Les gens vont payer souvent des dizaines de milliers de dollars pour leur auto.
Puis réparti sur plusieurs années.
Exact. Puis moi, je connais beaucoup de gens qui ont des autos de 2-3 ans, puis je rentre en dedans, puis c'est des véritables poubelles. On prend moins soin de son auto que de sa vulgaire machine à café, j'ai l'impression. Puis après, on chiale quand ça pète après 5 ans. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire côté entretien automobile puis comment faire durer une auto longtemps. Parce que je crois vraiment que le propriétaire ou la propriétaire a un grand rôle à jouer dans la durabilité d'une voiture.
Est-ce que dans un élan de générosité, on irait avec quelques trucs?
Ben, je pense qu'on est là pour ça.
Ben, c'est ce que j'ai préparé, en tout cas.
Chers auditeurs, vous êtes gâtés. Germain Goyer a pensé à vous. Parenthèse avant qu'on commence, Germain, toi, tu possèdes des vieilles autos qui ont beaucoup de millage. Je veux pas dire qu'on est des experts, là, mais on est un peu
mais
des experts en la matière.
Ah!
C'est quoi ton auto avec le plus de kilométrage?
C'est ma Mercury Grand Marquis, qui a une plaque d'immatriculation personnalisée sur laquelle on peut lire Freddy, comme le chanteur de Queen.
Ah, j'étais sûr que c'était en hommage à ton fidèle comparse de podcast de char.
On me dit à l'oreille que non.
Ah, et quel dommage.
Cette voiture-là, en fait, l'odomètre a 5 chiffres.
Ah oui?
Donc, elle a fait
le tour.
Un tour du rouleau, comme
le tour
on
du
dit.
Monde.
Un tour du monde. Elle a, il est affiché environ 75 000 km, mais elle a fait un tour complet. Donc, 175 000 km pour une bagnole américaine des années 80, je trouve ça pas si mal.
Ah, ça, c'est ton auto qui a le plus de kilométrage, 175 000?
Ouais.
Je pensais que ça serait plus. Je pensais que t'avais des autos comme ta Jetta ou
elle a 120 000 km.
Seulement?
Oui.
Puis ta vieille brune, là?
75 000 milles à peu près.
OK, OK. Bon, je pensais épater nos auditeurs avec des chiffres de 300, voire 400 000 km.
Non, mais toi, ton Westfalia, il a roulé beaucoup.
Oui, il a dépassé le cap des 260 000 km cet été. Évidemment.
Puis là, on compte pas tous les kilomètres parcourus sur une dépanneuse.
Ben là, on sera au-dessus de 300. Évidemment, c'est pas moi qui ai fait le gros de ce kilométrage-là. Quand je l'ai acheté, il y en avait 240, je pense.
Ben quand même, ça fait pas 10 ans que tu l'as, puis c'est un véhicule avec lequel tu roules seulement l'été.
Exact, exact. Puis s'il roule aussi bien encore aujourd'hui, malgré les quelques petits problèmes auxquels tu fais référence, c'est parce que, je pense, les premiers propriétaires, les gens qui l'ont eu avant moi, en ont pris grand soin. Puis c'est pour ça que c'est un véhicule qui a maintenant presque 30 ans, 260 000 km au compteur, puis qui roule encore somme toute assez bien. Je pense que c'est parce qu'il y a des gens avant moi, puis moi je continue de faire ce boulot-là, qui s'assurent de faire un entretien régulier puis important de ce véhicule-là.
Et sa carrosserie est propre, mais c'est la même chose avec son intérieur aussi. Là, il y a des véhicules qui sont beaucoup plus jeunes que ça, qui sont bien plus maganés, bien plus rouillés. Et,
exact.
Mon ancienne Sentra en serait un bon exemple.
Ben, on va commencer par parler de ça, la carrosserie, Germain, parce que évidemment, bon, il y a l'entretien mécanique, on va y revenir tantôt, mais la carrosserie d'un véhicule, il faut en prendre soin, puis une façon de prendre
surtout
soin
au
de
Québec,
son auto, ben
parce
oui,
que
totalement.
Le climat est très, très, très difficile pour le métal au Québec.
Beaucoup de calcium sur les routes pendant les mois d'hiver,
oui.
Puis une belle façon de prendre soin de son véhicule, c'est avec un traitement anti-rouille.
Oui, justement, ben, il y a quelques semaines, on a eu la chance d'en parler à l'émission Le Guide de l'Auto. Un de nos invités est venu nous discuter là, pendant une vingtaine de minutes d'anti-rouille. Et ce qu'on a retenu, le réalisateur cherche de la rouille sur des bas de caisse.
Il a habilement écrit « Car Rust » sur Google. Sacré et réalisateur.
Ça sent le tétanos jusqu'ici. Et ce qu'on avait retenu de cette entrevue-là, c'est que oui, le traitement à la graisse était plus dispendieux, mais il était beaucoup plus durable. Et tout ce qu'on avait à faire, c'était des petites retouches au besoin comparativement à l'huile qui nécessite une application beaucoup plus récurrente.
Oui, on parle de presque à chaque année pour un traitement à l'huile, alors qu'à la graisse, c'est quoi? Tu fais ça une fois, maximum puis, deux fois, puis c'est fait pour toujours.
Exactement, exactement. Puis, tu fais des retouches là où il en manque,
ouais.
Puis c'est tout.
Fait que ça, c'est
une Mazda protégée rouillée du jamais vu.
Bravo, réalisateur.
Sur Google, l'image, on voit des raretés.
Puis ça, bon, évidemment, les traitements anti-rouille, il faut savoir que les voitures neuves d'aujourd'hui viennent avec quand même un traitement qui est déjà fait. Mais ça reste une bonne chose d'aller, surtout, tu l'as dit, dans des marchés comme le nôtre, où les conditions routières sont assez difficiles.
Ouais, en Californie, c'est différent, on s'entend.
Oui, puis encore, t'en vois de la rouille en Californie, parce ouais, qu'il y a du sel dans l'eau de mer.
C'est de la rouille plus de surface.
Oui, c'est vrai, c'est pas pareil.
Puis sur des voitures plus vieilles.
C'est vrai.
Tu sais, ici, les voitures sont pourries d'un bord à l'autre.
La rouille peut carrément tuer une voiture quand ça s'attaque à l'architecture même du véhicule, aux composantes de suspension, par exemple, ou au frame, en bon français. C'est pas juste esthétique, là. La rouille peut carrément tuer votre véhicule à long terme. Puis un traitement anti-rouille, je pense pas que c'est un luxe au Québec, même si les véhicules d'aujourd'hui sont mieux construits désormais pour faire face à la rouille. Il y en a plus des Mazda protégés qui deviennent des fromages suisses en dedans de 4 ans, là. Mais c'est quand même une bonne chose d'appliquer un traitement anti-rouille. Peu importe la marque de votre véhicule, prenez pas de chance. Ça, je pense que c'est la première chose à faire pour vous assurer que votre véhicule dure longtemps puis vieillisse en beauté aussi.
On était rendu à l'anti-rouille, mais il y a une chose à laquelle il faut penser dès qu'on sort de chez le concessionnaire.
Mais qu'est-ce que c'est, Germain? Mais qu'est-ce que c'est?
Le rodage!
Le rodage, ça oui. Existe encore, ça?
Ben, c'est important, là, pour les premiers milliers de kilomètres, d'y aller mollo sur la pédale et de pas monter en régime avec la voiture. Et anecdote, quand j'ai été en âge de conduire et qu'à la maison...
L'année passée.
Franchement... Et que mes parents ont acheté une voiture neuve et que j'étais en âge de conduire, c'était une Golf 2014. La première chose qu'ils m'ont dit, c'est « Oublie pas le rodage, hein. Faut pas rouler trop vite et surtout ne pas trop monter en régime pendant les X premiers milliers de kilomètres. » Le message était-il clair, Frédéric?
Et toi, en tant que jeune adolescent, j'imagine que t'as rêvé ça à 6000 tours au premier coin de rue?
Absolument pas, non? Mais ça aurait été mon réflexe si on m'en avait pas parlé avant.
Probablement.
Oui.
Mais il faut savoir aussi, bon, la période de rodage, je pense qu'elle est moins importante qu'elle l'a déjà été.
Oui.
Dans le temps de voiture à carburateur, par exemple, là, on avait des pièces où vraiment... Il fallait faire attention quand on avait un véhicule neuf. Mais c'est encore d'actualité. Il faut encore faire attention lors des 3 à 5 000 premiers kilomètres.
Oui, ça varie d'un véhicule à l'autre, d'une marque à l'autre. Puis c'est le genre d'information qu'on retrouve dans le manuel du propriétaire.
Parce qu'on en parle dans le manuel du propriétaire.
Exactement.
Fait que c'est quoi? C'est de pas freiner trop brusquement.
C'est surtout de pas accélérer brusquement et de faire tourner le moteur trop haut.
Je pense qu'on parle à peu près 3 000 tours minute. Là.
Ouais.
Idéalement, faut pas dépasser ça. Fait que pas d'accélération en fou.
On
ne prendra
pas le Vitec la première semaine, comme on dit.
Que non. À moins que vous vouliez que votre véhicule vieillisse mal, mais c'est pas ça que vous voulez, chers auditeurs, parce que vous avez payé cher pour votre belle voiture. Je veux te parler aussi de quelque chose que les gens négligent trop souvent, laver son char.
Bon. Les apparences, tout le temps.
Non, c'est ça. C'est pas juste les apparences. Évidemment, il faut pas en faire une maladie. Il faut pas laver ça à chaque semaine. Là. Faut pas virer fou.
Ouais, parce que là, hein, de l'eau, faut en garder pour les poissons.
De l'eau, c'est une expression de ta mère, ça? De
ben
l'eau,
non.
Faut en garder pour les poissons?
Non. Quand t'étais petit gars, là, à petite école, puis t'allais à la fontaine... Fait que là, l'institutrice ou la maîtresse d'école elle nous disait, ben là, ah ouais, dépêche, faut garder de l'eau pour les poissons. Ça voulait juste dire dépêche parce que le petit Nicolas ou la petite Julie en arrière de toi, elle a soif aussi.
Ah ouais, je savais pas. Puis là, je regarde le réalisateur qui a grandi en Ontario en plus, tu te faisais dire ça? All right.
Un phénomène qui grandissant et qui se rend d'une province à l'autre.
Grande B, société distincte. OK, bon, ben écoute, oui, effectivement, Germain, de l'eau, faut en garder pour les poissons. Donc, laver son char à tout bout de champ. Ça peut être abusif, mais surtout dans les mois d'hiver, c'est pas de mauvaise chose, une fois de temps en temps, de laver
calcium,
ou d'aller faire laver son véhicule. Exactement, ça enlève
faire
le calcium.
Attention pour pas que les portes gèlent et les serrures aussi. Là, mais...
Tout à fait. Puis c'est une façon aussi, avec le temps, de continuer d'apprécier votre véhicule, de l'avoir sous son plus beau jour. Peut-être qu'au bout de 3-4 ans, mais si vous avez une voiture qui est belle, qui est encore propre, ça va moins vous donner le goût de changer pour le modèle de l'année puis vous rembarquer dans des paiements pour les 60 prochains mois.
Ça va briser le quotidien, l'instant d'une journée.
Écoute, Si on peut faire ça une journée, Germain, briser le quotidien, briser la routine.
Puis on...
Un peu de magie, ça fait pas de tort dans ce monde terne. Lavez vos chars! Mais pas trop, gardez de l'eau pour les poissons.
Puis on pense à appliquer du Armor All puis des choses très, très, très cosmétiques. Mais on peut aussi en profiter pour nettoyer les sous-bassements de la voiture.
Bien dit.
Et ben là, il s'en accumule du calcium, des petites roches et toutes sortes de...
La terre,
toutes sortes de débris. Oui, c'est ça. Si vous restez là en dehors des sentiers battus, là, si on veut...
À Laval.
C'est ça, les sous-bassements.
Exact. Fait qu'il y a un bon lavement.
Le savon à vaisselle, hein. Faut pas utiliser ça non plus.
Ben, ça sent bon. Ça sent bonne.
Ton auto, elle va sentir bonne, Frédéric.
Elle va sentir bonne, mais non, c'est pas une bonne idée d'utiliser du savon à vaisselle. Il y a des produits qui sont faits pour ça, du savon pour les voitures. Il y a un paquet de milliers de types d'applicateurs de cire.
Il y en a des allées pleines dans un certain magasin dont le logo ressemble à un cédé le passage.
C'est très bien dit. Mon magasin préféré. On le nommera non. pas, mais vous avez compris. Donc, il y a beaucoup de produits pour laver votre voiture. Il suffit de vous rendre dans n'importe quel magasin avec un panneau qui ressemble à un signe de cédé le passage. Puis, vous pouvez faire un choix parmi une vaste sélection. Puis bien laver votre véhicule ou aller ou payer quelqu'un pour qu'il le fasse ou aller dans un fameux lave-auto, même si c'est pas ce que je recommanderais en premier, mais c'est toujours mieux qu'à rien.
L'huile aussi, c'est bien important pour...
Oui, on embarque sur le moteur, là.
Oui, ouais, les choses sérieuses, là.
Parce que c'est le cœur du véhicule, Germain. Ah. Petite anecdote. Il y a quelques années de ça, quand même, mon frère a acheté un véhicule.
Oui, quel était-il?
Loué à long terme, en fait. Un Sion TC. Sa première voiture neuve.
La Turonier?
Non, c'était pas... c'est une belle petite auto.
Oui. Ça fait un peu coiffeuse, là. On n'a plus le droit de dire ces choses-là.
Non, ça faisait coiffeuse, on va le dire.
Oui.
On va le dire. C'est comme la Tiburon moderne.
Voilà, une fausse voiture sport.
Mais bref, il s'achète sa Sion TC, puis moi, je vais avec lui au concessionnaire, puis on prend possession du véhicule, tu comprends? Puis, il y a les gens au concessionnaire qui lui font une espèce de petit walk-around du véhicule. Mm-hmm. Bon, une démonstration, ça, c'est ici. Passe un peu de temps sur le fameux système d'infodivertissement qui était, ma foi, fort merdique.
Et fort simple, probablement.
Et assez simple, oui. Puis, à la fin de la démonstration, on ouvre le capot. Puis, on dit, bon, ben ça, c'est le moteur. Et mon frère de répondre, OK. On referme le capot.
Et ça s'est arrêté là!
Ça s'est arrêté là! On a passé beaucoup plus de temps sur le foutu système d'infodivertissement que sur la chose qui fait en sorte que, quand tu tournes la clé, le véhicule avance. C'est je veux dire, il n'y a rien de plus important dans ton auto que le moteur. C'est ça qui fait que tu vas avancer.
Oui, parce que sans moteur, la voiture n'est plus une voiture.
Ce n'est plus une pauvre carcasse. Ce n'est plus une automobile. C'est une auto immobile. Bref, le moteur. Oui. Très important de bien faire l'entretien. Puis, tu parlais des changements d'huile, je crois.
Oui, parce que, encore là, il faut regarder dans le manuel du propriétaire, voir ce qui est recommandé par le fabricant. Des fois, on va étirer ça beaucoup trop, à mon avis. On va aller jusqu'à 15 000 km. Ouais. Encore là, au Québec, on a un climat qui est difficile. Quand on passe de l'été à l'hiver, pour des liquides, c'est demandant. Attendez pas, gardez pas la même huile un an. Autrement dit, là.
Oui, c'est vrai. Puis même quand on fait un changement d'huile...
Deux fois par année, là, hein, en changeant les pneus, ça fait pas de tort.
Exact.
Si vous roulez énormément, faites-le davantage que deux fois par année. Mais quand vous faites changer les pneus, faites donc changer l'huile.
Parce qu'à l'automne, à l'aube de l'hiver, votre mécanicien ne mettra pas nécessairement le même type d'huile qu'il ferait au printemps. Parce qu'on a besoin d'une huile qui est plus visqueuse en hiver. Bref. Ouais, je pense que c'est quand même bien dit ça, une deux fois par année faire changer l'huile. Évidemment, si vous avez un véhicule électrique, ne prenez pas ce qu'on dit pour du cash, allez pas voir votre concessionnaire en demandant un changement d'huile. On va vous regarder d'une façon assez bête. Merci. Il y a moins de choses à entretenir sur un moteur électrique pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup moins de pièces movibles. Un moteur électrique, il y a pas grand-chose à faire pour l'entretenir, outre peut-être faire attention aux charges. Il y a encore des gens qui disent que recharger la batterie au maximum ou trop longtemps, ça peut être dommageable. Je crois comprendre c'est de moins en moins vrai, mais quand même, il y a peut-être encore une réalité derrière ça.
Ce à quoi les propriétaires de véhicules électriques ne pensent pas, par contre, c'est tout ce qu'il y a autour du moteur électrique et des batteries, suspension, direction au Québec. Ces pièces-là en mangent
ouais,
mangent la misère.
C'est
pas parce que ça, faut les changer quand même. Ben, il y en a qui restent surpris.
C'est pas parce que tu as une voiture électrique que tu n'as plus d'entretien à
faire. Exactement.
Mais il y a moins d'entretien à faire.
Oui.
Tout ce qui est mécanique, c'est pas mal plus simple qu'une voiture à essence.
Oui.
Mais pour la majorité des conducteurs qui encore fonctionnent avec une voiture à essence, c'est important de bien faire les changements d'huile. Ça a longtemps été aux 5000 km, c'est plus le cas.
Non.
Mais puis, 15 000, c'est vrai que la sauce était tirée un petit peu.
En réponse à quelqu'un qui disait qu'il faisait changer son huile à tous les 4 000 km, un ami m'a dit « Toi, quand tu reviens de faire l'épicerie, tu jettes-tu ton lait de la semaine passée?
» Ça, c'est jeter son argent par les fenêtres.
Oui,
là.
Exactement.
Pas, comme les lavages là, d'auto, faut pas les faire aux semaines, faut pas virer fou. C'est la même chose avec les changements d'huile. Faut pas virer fou.
C'est clair?
C'est clair? C'est comme les gens qui mettent du super dans leur Toyota Corolla.
Non!
Faites pas ça. Vous donnez-moi l'argent, je vais l'investir. D'ailleurs, je t'en parle souvent, mais je plais à me dire que je fais moi-même mes changements d'huile.
Ah!
C'est quelque chose qui
c'est pour fait... ça le petit noir en dessous des ongles.
C'est quelque chose... Ça, c'est... Ouais, c'est assez dégueulasse. C'est quelque chose qui se fait assez facilement. La majorité des gens vont le faire.
Bien sûr.
Mais changer son huile, si vous avez de la place chez vous puis un petit peu de temps, c'est pas quelque chose de difficile à faire.
Comme je ne suis pas Monsieur Bricole.
Ouais, c'est ça. Si vous n'êtes pas à l'aise aussi bien de le faire chez le concessionnaire.
Et sans aller non plus chez le concessionnaire, on peut aller dans des garages indépendants.
Tout à fait.
Et souvent, on va juste payer moins cher que chez le concessionnaire.
En effet.
Et quand je fais faire le changement d'huile, souvent, j'en profite pour faire réparer ou ajuster deux ou trois autres trucs, là, tu sais, parce que oui, voilà.
Puis pour répondre à la question du réalisateur, parce que je suis sûr que t'es pas la seule personne qui se pose cette question-là. Un changement d'huile, on ne fait pas juste ajouter de l'huile dans le moteur. Premièrement, on draine l'huile usagée du moteur. Il y a une petite botte qui se trouve en dessous de chaque moteur de chaque voiture sur la planète.
Et c'est comme si la voiture faisait pipi!
Elle fait du pipi noir. Une fois que l'huile est vidée du moteur, tu refermes la botte en question. Ne démarre pas le moteur à ce moment-là parce qu'il n'y a plus d'huile à l'intérieur. Tu changes le filtre à huile et tu ajoutes ta nouvelle huile. Aussi simple que ça.
Et l'huile n'est pas non plus le seul liquide essentiel au bon roulement d'une voiture.
Hein, laisse-moi réfléchir.
Vas-y.
Le windshield washer?
Oui, en fait, ça, on n'a pas besoin de le changer. Simplement en ajouter quand la petite lumière allume. Et la lave-glace d'hiver, lave-glace d'été, c'est pas la même chose. Puis le lave-glace d'été va geler en hiver et bon, voilà.
Mais je pense pas que c'est vers ça que t'allais, là.
Non, je parlais de liquide de refroidissement.
Le Prestone!
Oui, ça, faut pas en manquer parce que sinon, on va le moteur va surchauffer.
Tout à fait.
Il y a l'huile à transmission qui est essentielle au bon fonctionnement de la transmission. Et quand vous allez au garage pour un changement d'huile, vous pouvez demander à ce qu'on vérifie le niveau des liquides. Oui, exact. Ouais.
Les fluides.
C'est en anglais.
Oui, mais on dit, c'est dans le franc-parler au concessionnaire.
Ouais.
On vérifie les fluides.
Chaque mois est fluide.
OK.
Et voilà.
Il y a un manuel d'entretien, en fait, qui vient avec chaque véhicule.
Un beau petit livre.
Puis on va vous dire, à tant de kilomètres, il faut changer les freins. À tant de kilomètres, il faut changer l'huile à transmission, par exemple, qui se change pas mal moins régulièrement que l'huile à moteur. Donc, simplement de respecter ce calendrier d'entretien-là, puis vous allez être en business pour garder votre voiture pas mal plus longtemps. Ou en tout cas, vous mettez toutes les chances de votre bord. Parce que c'est vrai qu'il y a des autos qui sont plus fiables que d'autres. Mais moi, je prendrais n'importe quand une... Puis là, c'est... Ouais, je vais dire ça, là, avec un bémol quand même. Mais je prendrais n'importe quand une Fiat 500 de 5 ans qui a été très bien entretenue, plus qu'une Toyota Corolla qui a été négligée.
Il l'a dit.
Je l'ai dit.
Il l'a dit.
Si vous avez une petite lumière qui allume puis qui flash dans votre tableau de bord, mais c'est peut-être une bonne idée de la faire vérifier tout de suite puis de pas attendre 20 000 km avant d'aller chez le concessionnaire.
Oui, puis si elle allume, c'est une chose, mais si elle clignote, ça, c'en est une autre. Il faut arrêter sur le champ. Puis le fameux check engine, là, dont
ça,
tout le
ça
monde...
fait peur à bien du monde.
La moitié des questions qu'on nous écrit en privé, c'est à peu près ça. Mais ça peut être une défectuosité du moteur, comme ça peut être tout simplement le bouchon du réservoir d'essence qui a été mal vissé.
C'est comme le fourre-tout des petites lumières qui clignotent le check engine.
C'est juste pour aviser qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe.
Il faut pas virer fou avec ça, mais je répète, c'est une bonne chose d'agir le plus rapidement possible, d'aller chez le concessionnaire. Chez le concessionnaire, bon, il faut savoir, toutes les voitures modernes ont ce qu'on appelle un port OBD2. En gros, c'est une façon de communiquer avec l'ordinateur. Les concessionnaires vont brancher leur petite machine dans le port OBD2, puis l'ordinateur du véhicule va simplement donner un diagnostic, expliquer en plus en détail c'est quoi le problème. D'ailleurs, si vous êtes un peu mécano, Sachez que ça se vend sur Internet ou dans certains magasins, ce lecteur-là que vous pouvez vous-même brancher dans votre véhicule puis avoir un diagnostic. Ça vous permettra peut-être pas de le régler, mais au moins vous allez savoir
c'est
quoi.
Va le savoir, c'est ça.
Non, mais au moins tu sais si c'est grave ou non. T'sais. Des fois, souvent, les check engines, c'est un sensor qui fait défaut.
La base aussi, ça peut être encore là d'ouvrir le manuel du propriétaire et de regarder la légende. Parce que oui, il y a le check engine, mais il peut avoir une dizaine d'autres voyants là, dans votre tableau de bord.
Ou tu peux faire comme n'importe quel petit Joe connaissant.
Et mettre un bout de tape électrique dessus pour ne plus jamais le voir.
C'est pas ça que j'allais dire. J'allais dire, okay. Ouvrir le capot. Tourner en rond avec les mains sur les hanches.
Se gratter le front.
Donner trois petits coups sur le pneu avant gauche.
Sortir un marteau.
Refermer le capot et dire « J'aurais jamais dû acheter un American. »
Tu dis « Ah, ça doit être le moteur.
» Bon, grosso modo, les voitures n'ont jamais eu aussi peu besoin d'entretien qu'aujourd'hui, mais c'est encore la façon de s'assurer d'avoir une voiture fiable à long terme, c'est d'en faire l'entretien. As-tu quelque chose à rajouter, mon cher Germain?
Ben pour garder une voiture belle longtemps, c'est quand même bien de ne pas l'exposer au soleil en permanence.
Effectivement.
Moi, ce que je fais, là, un petit truc, je place ma voiture dans la rue, comme ça, le matin, elle est au soleil d'un bord, et comme ça, elle est à l'ombre de l'autre côté l'après-midi.
À bronze égal.
Voilà. Elle sera pas bronzée en habitant comme moi, là.
Non, mais le soleil, bon, je veux dire, on est tous exposés au soleil à un moment donné, il faut pas virer fou. Ouais. C'est juste que si vous avez l'opportunité à un moment donné, si vous savez que vous prendrez pas votre auto pour une semaine, si vous pouvez la stationner à l'intérieur, ben à long terme, ça peut être gagnant.
Oui, la peinture ne sera pas brûlée. Et on sait qu'il y a des voitures qui sont plus sensibles à ça. Un cas assez flagrant, les Civic qui ont une dizaine d'années à peu près, elles ont deux bandes sur le toit, la valise, où la peinture est brûlée. Là.
Puis ça, on dirait que peu importe ce que tu as fait avec ton auto, si tu es déjà allé dehors avec, ce qui est le cas de 100% des propriétaires, ça a tout fini par brûler. Ça, c'est un cas très drastique, mais tous les véhicules ou à peu près finissent par avoir une peinture qui est brûlée par le soleil. Fait que si vous pouvez réduire l'exposition de votre véhicule au soleil, ben faites-le. Si vous pouvez pas, c'est pas la fin du monde. C'est pas l'entretien numéro un, mais c'est une bonne façon de le faire. Puis il y a aussi, Germain, puis j'aimerais conclure avec ça, la conduite, votre propre conduite.
Oh,
ça peut changer quelque chose.
Oui.
C'est tout?
Oui. Non, mais c'est vrai que de ne pas malmener sa voiture...
La batte, en bon français.
La batte. Et
pas la bière, là, la batre.
Oh, il l'a dit!
Batre. T'as mauvais des alcools, toujours un bon mix.
Un bon mix. Voilà, donc ne pas malmener sa voiture, ne pas la battre en bon français, ça peut être une bonne idée pour préserver l'ensemble de la mécanique et de ses composantes.
Ne pas accélérer comme un malade, ne pas slammer les brakes comme un fou. Effectivement, c'est toutes des choses qui, finalement, vont faire en sorte qu'au bout de 5 ans, 7 ans, 10 ans, votre auto va avoir vieilli beaucoup mieux que la majorité des modèles similaires.
Comme aime bien le dire notre collègue Antoine Joubert, il coûte souvent beaucoup moins cher d'entretenir son véhicule, même si la facture paraît élevée, que de payer les simples frais de transport et de préparation pour une voiture neuve. Fait que vous savez quoi faire, entretenez-la donc.
Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était Frédéric Mercier et Germain Goyer à l'animation.
Merci à Bastien Gagnon La France à la réalisation et à Philippe Séguin au montage.
Merci aussi à Philippe pour la belle musique qui accompagne ce podcast.
C'était une production Cube Radio.